Bonjour à tous. Je me présente tout de même parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes que je ne connais pas. Je m'appelle Michel, donc je suis étudiant à l'IBN en première année. Et j'ai été à l'église de Saint-Maur aussi il y a quelques temps. Et aujourd'hui, je suis à l'église de Passage National, donc une église de l'AECM aussi. Et je remercie encore une fois de plus les responsables de cette église pour cette invitation. Ouais, juste pour en dire un peu plus, je suis marié, j'ai 3 enfants. Effectivement, mes enfants sont à l'école du dimanche. Et aujourd'hui, Sian et la petite Victoire sont en ce moment dans un week-end de mère-fille avec Famille Je T'aime. Donc on les verra pas aujourd'hui. Je fais juste un petit test. Ok, ça marche. Alors, tu ne commettras pas de meurtre. Vraiment ? Aujourd'hui, nous allons aborder donc ce commandement, ce 6e commandement, « Tu ne commettras pas de meurtre », qui se trouve dans Exode, chapitre 20, verset 13. Et là, tout est dit, en un seul verset. Et je crois savoir qu'à ce moment, effectivement, Samuel l'a rappelé tout à l'heure, que vous êtes sur une série sur les 10 commandements. Alors, peut-être que ça fait longtemps, mais c'était quoi la dernière fois ? C'était quel commandement ? C'était le 5e. « Honore ton père et ta mère ». Dieu passe du respect de la famille à l'interdiction au meurtre. Le verset 12 nous parle de la sanctification de la famille. Le verset 13, de la sanctification de la vie humaine. Et je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence, un hasard. Non, Dieu ne choisit pas au hasard de parler du respect des parents et par extension à l'autorité en général, et ensuite de donner son opposition au meurtre. On le voit bien dans la société, la famille est de moins en moins respectée. Les jeunes n'écoutent plus, les parents se sentent démunis, parfois même dépassés, et l'autorité n'est plus respectée non plus. On observe de plus en plus de violence dans la société. Et je dois vous dire que s'il n'y a pas d'ordre dans la famille, il est probable qu'il n'y a pas d'ordre dans la société non plus, ce qui mène indubitablement à une explosion de la violence. Et juste après, Dieu nous dit quoi ? Tu ne commettras pas de meurtre. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même poser une précision. La Bible ne dit pas ici « tu ne tueras pas », mais bien « tu ne commettras pas de meurtre ». Et ce n'est pas vraiment la même chose. Ce 6e commandement n'interdit pas la légitime défense, par exemple. Lorsqu'on va vous attaquer d'un couteau et qu'en tentant de vous défendre, l'arme de l'opposant se retourne contre lui. Le 6e commandement ne condamne pas non plus la peine capitale due à l'application d'une sanction pour meurtre, ou même lorsqu'il est nécessaire. Malheureusement, d'ôter la vie d'une personne dans le cadre d'une fonction militaire pour protéger son pays. En hébreu, le mot utilisé pour meurtre désigne un acte précis, ôter la vie de manière préméditée et intentionnelle. Et c'est différent du simple fait de tuer, qui est une notion très générale. Et malheureusement, on trouve beaucoup de meurtres dans l'actualité, et même dans la Bible. Et ça en dit long, n'est-ce pas, sur notre nature humaine ? Une nature qui, loin de Dieu, n'a eu de cesse que d'ôter la vie, jusqu'à aller ôter la vie du Fils de Dieu. Ce 6e commandement, oui, c'est peut-être un commandement que tout le monde connaît, ou croit connaître. D'ailleurs, si on faisait un sondage ici dans la rue à Saint-Maur, je suis prêt à parier que c'est celui-ci que les gens citeraient en premier. C'est sans doute le commandement le plus consensuel, le plus évident pour tous. Et j'espère qu'on est tous d'accord ici dans cette salle, qu'il ne faut pas commettre de meurtre. Alors on pourrait se dire, bon bah du coup, à quoi bon ce commandement ? Si tout le monde est d'accord, ça ne sert à rien d'en parler. Mais en réalité, tout comme pour le 5e commandement, respecte ton père et ta mère, la société d'aujourd'hui ne respecte plus vraiment ce commandement à ne pas commettre de meurtre. Et ce matin, nous allons voir que ce commandement est loin d'être dépassé. Nous allons voir tout d'abord que ce commandement est un commandement pour protéger l'image de Dieu. Et ensuite, que c'est un appel à reconnaître la valeur de chaque vie humaine. Et pour finir, que ce commandement nous conduit de la haine d'Abel jusqu'à la croix de Christ, où Dieu transforme la mort en vie. Alors tout d'abord, un commandement à protéger l'image de Dieu. On pourrait donc se dire, oui, que ce commandement n'a pas besoin d'être rappelé. Tout le monde est d'accord, ouais, tuer c'est mal. Mais pourquoi est-ce que c'est mal ? Si on continue notre micro-trottoir ici à Saint-Maur, La plupart des gens sondés diraient que c'est pour éviter qu'on s'entretue entre nous au gré de nos humeurs. Cela permet de nous sentir en sécurité. Ne pas commettre de meurtre, c'est donc utile dans la vision du monde. En France, en tout cas, ça nous permet de nous sentir dans une sécurité toute relative, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays. Autrement dit, dans notre société, la vie humaine est surtout protégée par l'utilité sociale. Mais la Bible nous dit quoi ? La Bible nous dit que ça va bien plus loin que ça. Plus que de se protéger les uns les autres ou de maintenir l'ordre, ce sixième commandement est avant tout un commandement à protéger l'image de Dieu. Alors vous le savez sans doute, Dieu a créé toutes choses. Et dans la Bible, il est même dit que Dieu créa les animaux, les hommes. Il a créé l'univers, il a créé la terre et toutes les choses qui composent cette terre. Et on parle aussi de toutes les espèces végétales, même les choux et les carottes. Mais parmi tout ça, que nous dit la Bible en particulier sur l'homme ? Dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Donc, hormis le fait que Dieu créa l'humanité, l'homme et la femme, on apprend ici que Dieu les créa comment ? À son image. Et ce sont les seuls de la création à être créés ainsi. Les choux, les carottes, les singes et toute autre espèce de faune et de flore ne sont pas créés à l'image de Dieu. Ils sont créés par Dieu. Ce sont des êtres vivants, oui, c'est indéniable. Ils sont tous composés de cellules vivantes. Ils ont même un ADN qu'on appelle la molécule de la vie. Mais il est clair qu'il y a une valeur différente pour Dieu entre une salade, un bœuf et un être humain. Seul l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit se permettre de faire n'importe quoi avec la création de Dieu et ne porter que de l'importance qu'en nous, en l'être humain. Nous devons respecter la création de Dieu, toute la création. Dieu nous a demandé quoi ? Dieu nous a demandé de régner sur la création, pas d'appliquer notre domination. L'animal, par exemple, n'a pas une valeur égale à celle de l'homme. Pourtant, la Bible nous dit que tuer un animal est préjudiciable aussi, et interdit, sauf dans le cas de sacrifice, bien sûr, sacrifice demandé par Dieu, ou pour se nourrir. Mais dans les autres cas, c'est la loi du talion qui va s'appliquer, sachant que la vie animale n'a pas la même valeur que la vie humaine. Dans Lévitique chapitre 24, versets 17 à 18, « Celui qui frappe à mort tout être humain sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il le remplacera, selon le principe, une vie pour une vie. » Dans ce passage, on voit bien que l'homme qui en tue un autre, dans un acte volontaire, sera puni de mort. En revanche, l'homme qui tue l'animal d'un autre, même volontairement, ne sera pas puni de mort, mais il aura comme sanction de remplacer l'animal. Prendre la vie d'un animal, non, n'a pas les mêmes conséquences que prendre celle de l'homme. Et je ne dis pas que l'animal n'a pas de valeur. Ici, on parle d'animaux qui ont de la valeur, qui appartiennent à quelqu'un. Elles peuvent servir de nourriture, elles peuvent aussi servir dans le cadre d'un travail, comme pour un éleveur. Mais tuer l'animal, oui, tuer l'animal a un impact conséquent sur le propriétaire de la bête qui a été tuée. Mais on pourrait aussi parler de valeur sentimentale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants à la maison. Et ce ne sont pas franchement des peureux en général, mais je dois vous avouer une chose tout de même. C'est qu'il m'est déjà arrivé de prendre la vie. Prendre la vie à quelques insectes qui passent ci et là dans l'appartement ou au gré de nos balades. Et je pense qu'on l'a tous déjà fait. Tuer, éclater un moustique qui nous empêche de dormir en pleine nuit ou qui cherche à extraire notre sang en plein jour. Et je vous assure que mes enfants ne s'en plaignent pas quand je les éclate. Mais imaginons que chez nous, nous avons un petit animal tout mignon, comme un hamster, et que par mégarde, je marche dessus, causant le décès instantané de ce petit être innocent. Je serais sûrement puni à juste titre par mes enfants, n'est-ce pas ? Et je devrais sans doute rembourser cette perte sentimentale. Mais en revanche, ça ne fera pas de moi un criminel sanctionnable par la peine de mort. Parce que pour mes enfants, enfin je l'espère, la vie de leur père vaut plus que la vie de cet animal. Alors oui, nous avons plus de valeur parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et ce faisant, Dieu nous a même placés au-dessus de la création. Mais être à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, je dois vous avouer que la signification exacte de cette expression est encore longuement débattue par les plus grands théologiens. Nous ne savons pas exactement quel est le mystère qui se cache derrière cette expression. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut dire que Dieu a mis quelque chose de lui-même en chacun d'entre nous. Une sorte d'empreinte, certains parleraient même d'un ADN. Peut-être qu'il s'agit de cette conscience que nous avons et qui nous distingue clairement des animaux. Peut-être que c'est cette capacité à tisser des relations, à aimer, ou même à haïr, ou même notre vocation à refléter le caractère de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que cette identité que nous avons nous confère une dignité incomparable à tout autre être vivant. Nous avons une valeur particulière aux yeux de Dieu. Dans le récit du déluge, dans la Genèse, alors qu'il y a une prolifération du péché dans le monde, Dieu décide d'envoyer son châtiment par le déluge. Et nous avons ici dans notre texte, dans Genèse chapitre 9, l'une des clauses de l'alliance entre Dieu et Noé après le déluge. Quant à votre sang, à vous, j'en demanderai compte pour votre vie. Quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un être humain, je lui en demanderai compte. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Qui verse le sang d'un humain par un humain aura son sang versé. Car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Dans cette alliance entre Dieu et Noé, Dieu va reprendre les éléments de l'alliance créationnelle avec Adam et Ève, mais on va en rajouter d'autres qui sont devenus malheureusement indispensables avec l'introduction du péché, notamment cette clause que nous venons de lire. Dieu promet de préserver la vie et s'engage à préserver la création, mais il ajoute cette exigence pour borner le mal dans la société humaine. Ici, Dieu réclame une rétribution à celui qui versera le sang, en rappelant que la création appartient à Dieu seul. À celui qui répandra le sang d'un être humain, Dieu en demandera des comptes. Et ici, Dieu protège l'homme en particulier, ce qui constitue un appel à respecter la vie humaine. Celui qui verse le sang d'un humain aura son sang versé. Et avec cette particularité qui ne concerne pas les animaux, car l'être humain a été fait en sorte d'être à l'image de Dieu. Ici, Dieu dit clairement à l'homme, ne touche pas à mon image. Et donc, s'en prendre à l'être humain, c'est une offense directe que nous commettons envers le Dieu créateur. S'attaquer à l'être humain, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. Dieu nous donne ce commandement non seulement pour interdire un acte qui pourrait atteindre son image, mais aussi pour nous faire comprendre et nous faire prendre conscience de la valeur immense de chaque vie humaine. Et cette valeur, pour Dieu, ne dépend pas de ce que quelqu'un fait ou de ce qu'elle produit, mais du simple fait qu'elle est l'image de Dieu. Et nous comprenons ainsi pourquoi, instinctivement, la notion de meurtre est comprise par tous, même pour ceux qui ne sont pas des croyants. Dieu a imaginé l'homme et l'a créé de sorte qu'il se distingue du reste de la création. Et dans les lois de Dieu, cette valeur n'est pas liée au rang social, elle n'est pas liée à la richesse ou à la notoriété, mais juste par le fait qu'il soit humain. Il est dit dans la Bible qu'un hébreu, homme ou femme, un esclave, une servante, ont la même valeur pour Dieu. L'homme qui tue un autre homme aura pour sentence la peine de mort, qu'il tue un homme libre, un esclave ou un enfant. Et mettre tous les hommes sur le même pied d'égalité, mettre en avant leur valeur aux yeux de Dieu, nous fait comprendre quoi ? Tout simplement que chacun est inestimable pour Dieu. Dieu a pris le temps. Il a pris le soin de former chacun d'entre nous. Et il continue à le faire pour les générations qui arrivent. Alors on peut se poser aussi légitimement la question de la peine de mort. Est-ce que ce n'est pas contradictoire que de prendre une vie pour une vie si la vie humaine a tant de valeur ? En fait, la sentence de la peine de mort dans la Bible est plutôt une confirmation, plutôt qu'une contradiction de la valeur de la vie. Ici, seule la sentence par la mort d'un être humain a un poids égal, le poids nécessaire pour être en phase avec la gravité d'un homicide. La peine de mort, ce n'est pas juste un geste de vengeance aveugle, mais c'est le signe que ce qui a été fait est grave. C'est le cadre d'une justice voulue par Dieu. Mais attention, ce jugement utile n'appartient à Dieu qu'à Dieu seul. Seul Dieu donne la vie et seul Dieu peut décider de la prendre. Et Job va déclarer, malgré la douleur d'avoir perdu ses bœufs, ses ânes, ses moutons, ses chèvres, ses chameaux, ses serviteurs et même ses enfants, il va déclarer que la vie n'appartient qu'à Dieu seul et à lui seul. C'est Dieu qui décide de donner la vie et qui décide de la reprendre. Et le meurtrier qui ôte la vie précieuse d'un autre être humain est coupable de prendre ce qui revient de droit à Dieu seul. Il est coupable de rébellion envers Dieu et de se mettre à la place de Dieu. En quelque sorte, lorsque l'homme agit de cette manière, en tuant quelqu'un, il est en même temps condamnable vis-à-vis du premier commandement, celui de se placer devant Dieu. Dans le psaume 139, un verset magnifique, dans le verset 13 et 14, il est dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. » Ces deux versets dépeignent que Dieu lui-même nous a tissés dans le ventre de notre mère et que nous sommes des créatures merveilleuses. On dit que le peintre met un peu de son âme dans ses peintures pour réaliser une œuvre monumentale. Un chef-d'œuvre de toute une vie. Il faut parfois des années et des années, des décennies et des décennies, en passant par de nombreux échecs et en passant par des petites réussites. Mais si je puis me permettre, on pourrait imaginer Dieu créant l'homme comme pour une peinture, mettant de son être dans ses œuvres, mettre son image dans sa création. Mais chaque œuvre qu'il fait n'est pas une simple esquisse, ce n'est pas un essai, ce n'est pas une ébauche. C'est à chaque fois un chef-d'œuvre, une œuvre merveilleuse, pour reprendre les paroles du psalmiste. Et maintenant, quelqu'un vient pour détruire cette œuvre merveilleuse. Dieu donne des lois pour encadrer le meurtre, afin que ce qui paraît évident ne devienne pas une banalité. Dans notre société, la vie humaine est encore, bien heureusement, protégée par le code pénal. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle est honorée. Peu à peu, ce qui était autrefois une évidence morale commence à s'effriter. Pourquoi ? Parce que l'homme moderne a mis Dieu de côté. L'homme s'est installé au centre de tout, s'érigeant en maître de la vie et de la mort. Et dès lors, la valeur de la vie devient variable, ajustable, manipulable, selon ceux qui l'arrangent. Et cela nous amène à des formes modernes de meurtre déguisé ou socialement accepté. Il ne s'agit plus seulement de faire la distinction entre quelque chose d'aussi clair et net qu'un meurtre, un homicide volontaire. Et tout cela repose sur un malentendu, croire que la vie humaine peut se mesurer en termes d'utilité sociale, de confort ou de liberté individuelle. On peut parler de l'euthanasie, qui soulève la question du droit à mourir, mais surtout du droit à faire mourir. Bien heureusement, l'euthanasie est une pratique qui pose encore question, mais plus le temps passe, plus on voit que l'euthanasie est pratiquée. En France, l'euthanasie est légale, mais reste très cadrée tout de même. Le patient doit se trouver dans une situation médicale sans issue et faire état d'une souffrance psychologique et psychique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de candidats à l'euthanasie, mais peu d'élus, et que ces patients cherchent des alternatives. Comme ce procédé qui a été créé pour aider ceux qui veulent en finir, qui permet juste d'injecter un gaz létal dans la cabine à la demande. Mais en fait, qui décide que parce que telle ou telle personne semble être un poids pour la société, qu'elle ne vaut plus rien ? Et qu'elle ne vaut plus la peine de vivre. Qui décide que notre rôle est de l'aider à en finir avec la vie Et que notre rôle ne devrait pas plutôt être d'être de l'aider à mieux vivre. Non, la valeur de la vie ne se mesure pas à son utilité dans la société. Et cette problématique ne touche pas que des vieilles personnes, on pourrait aussi parler de ceux qui ont un handicap lourd. Et si on continue, on peut rapidement glisser sur un terrain terrifiant. On peut parler de ceux qui sont psychologiquement atteints, ceux qui sont en profonde détresse, et ces jeunes qui sont en proie au suicide. Comment peut-on les aider à trouver une alternative réjouissante alors que la société semble tolérer ces suicides assistés? D'un côté, la société cherche à prévenir des suicides, mais de l'autre, pratique une forme de tolérance de plus en plus accrue aux suicides assistés. Et on peut parler aussi de l'avortement. L'avortement qui pose la question de la valeur de la vie humaine avant qu'elle soit née. Nous l'avons vu tout à l'heure. Dieu est le créateur de chaque vie. Il la conçoit minutieusement. Il le tisse dans le ventre de notre mère. Et chaque conception, en fait, est un miracle. Ce n'est pas juste une œuvre physique, ce n'est pas une œuvre médicale, une œuvre scientifique, mais c'est un réel miracle rendu possible par Dieu. Et Ève va s'exprimer ainsi à la naissance de son premier enfant. « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle reconnaît ainsi l'œuvre de Dieu dans le déroulement de toute la grossesse, mais aussi que déjà dans son ventre, se trouvait un être à l'image de Dieu. Et dans les lois de Moïse, nous voyons aussi que Dieu reconnaît la valeur de la vie avant la naissance. Dans Exode chapitre 21, si par exemple quelqu'un heurte une femme et qu'il y a un accouchement prématuré et que l'enfant est viable et qu'il vit, alors il y aura juste une amende. L'autre cas est celui d'un accident avéré par la mort prématurée de l'enfant encore dans le ventre. Alors ici, c'est la loi du talion qui s'applique. Mais c'est une loi qui se base non pas sur l'utilité dans la société, mais sur la valeur pour Dieu, la vie d'un adulte pour la vie d'un enfant. Alors oui, la Bible nous dit que l'avortement est un acte de rébellion au Dieu créateur. Et ce, même si le fœtus est porteur d'un handicap. Au fur et à mesure du temps, la société a permis l'avortement pour des raisons médicales. Lorsque le fœtus est porteur d'un handicap lourd, par exemple, et que médicalement, il est sûr et certain que l'enfant ne sera pas viable. Et puis, petit à petit, les frontières ont été repoussées, comme avec la trisomie 21, alors que l'enfant sera tout à fait viable. L'avortement peut être pratiqué, et ce jusqu'au dernier jour de la grossesse. J'en conviens que la trisomie 21 reste un handicap assez lourd qui va chambouler la vie d'une famille. Mais posons-nous la question ce matin, comment estimons-nous que ces enfants ne devraient pas vivre? Et plus généralement, comment pouvons-nous estimer qu'un bébé en devenir n'a pas le droit de vivre au-delà de 14 semaines de gestation? Est-ce que notre liberté émotionnelle, notre tranquillité d'esprit suffisent à justifier, doter la vie à un être humain? J'en conviens que c'est une question ultra sensible qui se pose ici. Et je suis conscient que c'est peut-être un sujet douloureux pour certains d'entre vous. Mais nous devons nous poser ces questions, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité quant aux questions sur la société. Ce qui est indéniable, c'est que la vie commence dès la conception. Et ôter cette vie, peu importe le stade dans lequel elle se trouve, c'est désobéir au 6e commandement. Il est possible que tu aies fait le choix à un moment donné de ta vie d'avorter l'enfant que tu avais dans ton ventre. Tu avais probablement des raisons très personnelles de le faire et je ne suis pas là pour te juger, personne n'est là pour te juger. Mais sache que Dieu est prêt à te pardonner et il le fera. Il est le Dieu de miséricorde qui vient à toi dès maintenant. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas un meurtrier, que tu n'as pas avorté, que tu ne t'es pas suicidé, visiblement, ou que tu n'as pas été d'une aide à quelqu'un pour en finir avec sa vie. Alors, tout va bien? Alors, je suis désolé, mais c'est peut-être dur à entendre, mais en fait, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous des meurtriers à notre manière. On l'a vu, l'homme cherche toujours plus à repousser les limites que Dieu a établies en se donnant des circonstances atténuantes. En fait, nous sommes un peu comme des enfants qui testons les limites de nos parents, bravant une interdiction, et à chaque fois qu'on dépasse une limite, on lève la tête, on écoute un peu, on regarde, voir s'il n'y a pas de conséquences. Et s'il ne se passe rien, on recommence et on va plus loin. Mais Dieu est loin d'être aveugle. Il voit bien qu'à chaque fois que les limites sont repoussées, c'est que l'humanité s'écarte toujours un peu plus de lui. Et à un moment donné, toutes ces décisions que la société prend et qui vont à l'encontre des lois de Dieu vont retomber sur l'humanité entière. Jésus nous dit qu'au lieu de repousser les limites de ce commandement, nous devrions plutôt en resserrer les frontières. Dans le sermon sur la montagne, Jésus utilise le commandement avec lequel nous sommes le plus à l'aise, tu ne commettras pas de meurtre, et nous met dans une situation inconfortable. Dans Matthieu chapitre 5, versets 21-22. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Ici, il ne s'agit plus seulement de meurtre, mais du mépris, de la haine, du rejet, ou tout simplement de la colère. La haine mène parfois au meurtre. Mais la haine, c'est tout d'abord le début du meurtre, c'est le rejet de l'autre. Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, ceux pour qui nous pouvons avoir de la haine ou de la colère, mais il nous parle aussi de tous ceux qui ne sont pas semblables à nous, ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, les mêmes opinions ou même la même foi que nous. Alors il nous demande pas d'embrasser leurs pieds ou de nous forcer à les aimer. Comment agir avec toutes ces personnes qui nous maltraitent parfois ? Il nous dit de les aimer, et juste en leur faisant du bien, en cherchant à faire le bien plutôt que le mal. Jésus ne nous demande pas de céder à la colère, mais à l'atténuer, la freiner, l'éliminer de notre cœur, cette colère qu'on minimise un peu trop parfois. Et bizarrement, la colère passe souvent d'abord par le cercle familial, comme pour Abel et Caïn. Avons-nous été en colère cette semaine ? Ça peut être dans notre manière d'agir ou dans notre manière de répondre à quelqu'un, à nos parents, à notre frère, à notre sœur, à notre conjoint peut-être, ou même à nos enfants. Dans un groupe de famille à Passage National, nous parlions un jour d'éducation, et qui dit éducation dit punition et châtiment corporel aussi. Et j'ai partagé qu'il m'était déjà arrivé de donner la fessée à un de mes enfants. Même plusieurs. C'est triste, mais il n'y a pas de raison valable pour ça. Mais à chaque fois que je l'ai fait, il y a eu un regret quasiment instantané, une remise en question de soi. Et je me rends compte qu'au final, ça ne sert à rien. Ça ne sert en quelque sorte qu'à purger notre propre colère. Ce qui est semblable à un meurtre, finalement. Dans l'histoire de l'humanité, combien y a-t-il de récits qui concernent la vengeance ? Combien de récits commencent par la colère et finissent par le meurtre ? C'est facile, il suffit de regarder un peu l'actualité pour se rendre compte à quel point l'humanité est entachée par ce mal. Encore hier, dans la rue, j'ai entendu des coups de klaxon répétés. Puis une voiture fonçait tout droit, largement à plus de 70 km/h. Et vous le saviez aussi bien que moi, à Saint-Maur, toutes les rues sont limitées à 30. Mais si à ce moment-là, il y avait un enfant qui traversait tranquillement le passage piéton, est-ce que la voiture aurait eu le temps de s'arrêter ? Au lieu d'attiser la colère, Jésus nous demande d'être des artisans de paix. Et on n'en vient pas au meurtre sans raison. Que ce soit dans le cas de l'euthanasie, de l'avortement, d'un homicide volontaire, Cela vient d'une détresse, d'un rejet, d'un isolement ou de la colère. Tous les meurtriers ne sont pas des fous furieux. Moïse a été un meurtrier aussi. Il est aussi passé par la colère, par le ressentiment, par la haine. Moïse, meurtrier d'un Égyptien. Un Égyptien, oui, dominateur sur les Hébreux, qui maltraitait ses frères, qui les a bousculés, qui les a fouettés, qui les a forcés à travailler pour satisfaire les exigences d'un roi mégalomane. Mais un homme tout de même, une créature de Dieu, faite à l'image de Dieu. Et même dès le début de la Genèse, nous voyons que la violence suit de près la colère. À peine l'homme s'est-il détourné de Dieu que le premier meurtre apparaît. Caïn tue son frère Abel. Non pas pour se défendre, mais par jalousie, par haine. Et ce n'était pas seulement à ce moment-là un meurtre. C'était aussi un acte de violence domestique au sein même d'une famille. Caïn était jaloux et en colère contre son frère. Alors il a pris un bâton et a assassiné son frère Abel. Et Dieu vient, va vers Caïn et lui demande « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond « Mais j'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui répond « Mais qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. » Et là, ça peut paraître déroutant. Le sang d'Abel crie justice, mais aucune réponse immédiate n'est donnée. La justice ici semble suspendue. À ce moment-là, rien ne semble pouvoir faire justice à la mort d'Abel. Dieu entend le sang d'Abel crier jusqu'à lui. Le sang qui crie justice. Et pourtant, il n'y a pas de réponse. Nous voyons aussi qu'à d'autres moments dans l'Ancien Testament, Dieu décide de faire grâce à des meurtriers et de garder le silence. Comme avec Moïse, mais aussi comme avec le roi David. Et on voit ici que le principe de rétribution que Dieu instaure dès le déluge dans Genèse chapitre 9 n'est pas absolu dans la main de Dieu. Dieu peut suspendre cette fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, 100%, vie pour vie, et qui peut en donner un tout autre horizon. Oui, le meurtrier mérite la mort, mais il est possible aussi de rompre ce cycle de rétribution et de faire grâce. Et la réponse au cri d'Abel, c'est Jésus qui va la donner. Dans Actes chapitre 5, verset 30-31, « Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. » Jésus lui-même a été rejeté par les hommes qui l'ont condamné à la croix. La haine, la colère, la jalousie des hommes l'ont conduit à la croix et il en est mort. Et cette fois, c'est le sang de l'innocent qui a coulé. Le sang de celui qui était parfait en tout point de vue, de par son caractère, de par son obéissance, de par ses actes, de par ce qu'il est, par sa sainteté. Et nous demandions tout à l'heure, ouais, où est la justice qui répond au cri d'Abel ? Eh bien, la réponse nous est donnée dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. L'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Oui, Dieu entend le cri du sang d'Abel et de celui de toutes les victimes de meurtres, de guerres injustes, de terrorisme et d'autres atrocités. Mais le sang de Jésus, c'est celui qui parle mieux encore. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus n'est pas un cri qui appelle à la violence. Il ne réclame pas non plus la justice. Le sang de Jésus accomplit la justice. Le sang de Jésus est celui qui dit « Je te pardonne ». Ce sang et ce pardon est proposé aussi aux meurtriers, même aux pires des pécheurs et aux petits meurtriers comme toi et moi. Pas parce que Dieu minimise le péché, mais parce qu'en Jésus, le jugement de notre péché est tombé une fois pour toutes. Par Jésus, Dieu nous a fait grâce de la condamnation et nous restaure. Il nous fait grâce de tous nos péchés. Pas juste du péché d'être des meurtriers dans le premier sens du terme. Il nous fait grâce de toutes nos fautes. À chaque fois qu'on a été négligent envers quelqu'un d'autre, à chaque fois que nous n'avons pas pris soin de l'autre, à chaque fois que nous avons refusé d'écouter l'autre et de prendre du temps pour lui, à chaque fois que nous avons eu ce genre de comportement, c'est comme si nous arrachions petit à petit ce portrait magnifique que Dieu a créé, ou que nous lancions de la sauce tomate dessus, ou que nous dessinions dessus avec un marqueur indélébile, jusqu'à ce qu'il nous ait finalement plus possible de voir cette œuvre merveilleuse que Dieu a faite. En Jésus, l'image de Dieu est parfaitement restaurée. Et l'humanité en Jésus-Christ trouve un nouveau point d'ancrage, la paix avec Dieu. En Jésus, la vie a triomphé de la mort. La grâce et le pardon ont triomphé du jugement, de la colère et de la condamnation. En Jésus, et Jésus nous invite à nous saisir de cette grâce qu'il nous donne et de ce pardon qu'il nous offre et à nous positionner chaque jour comme des gardiens de l'image de Dieu, comme des protecteurs, des défenseurs, des artisans de paix et de dignité. Dieu nous dit, tu ne commettras pas de meurtre. Tu rechercheras, au contraire, la vie en toute chose et tu la défendras. Je vous invite à prier. Père éternel, merci de nous avoir créés à ton image, d'avoir fait de nous ces créatures merveilleuses que tu aimes. En toi, nous avons de la valeur, peu importe ce que la société nous dit, peu importe ce que la société nous donne comme valeur. Et merci parce que, oui, tu ne restes pas sourd aux souffrances de l'être humain. Tu nous offres cette justice incomparable en Jésus-Christ. Oui, peut-être que nous ne sommes pas des meurtriers, on ne se sent pas des meurtriers comme tels. Mais avons-nous réellement honoré l'image que tu as mise dans l'homme ? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous si nous n'avons pas su respecter tes commandements. Pardonne-nous si nous n'avons pas su prendre soin de notre prochain, d'avoir été à son écoute. Seigneur, fais de nous tout simplement des hommes et des femmes qui cherchons à défendre la vie que tu as créée. Merci Seigneur. Amen.